Cette fois, ce fut à son fils aîné qu'il s'adressa, d'un bout à l'autre de la pièce. « D'après toi, notre bon cousin Brockmel aurait-il pu lui prêter la main ?» Tiré de sa rêverie, Lanval eut l'air surpris d'être interpellé. « Pardon ?» balbutia-t-il sur le ton d'un homme qui s'éveille. « Notre bon cousin ?» « Ah, mon cousin en Grèce, mais il s'est réconcilié avec vous. C'est lui qui m'a encouragé à vous rejoindre. » Brockmel était à couteau tiré avec Odehard, renchérit le connétable. « Il a été le premier à se réjouir de sa chute. Je le vois mal conspirer pour défendre ses droits. » « Mais justement !»« Justement !» s'enflamma Ganelon. « Peut-être a-t-il trouvé ma justice trop clémente ?» Peut-être veut-il ruiner définitivement la branche maginoise de la lignée. Dès lors, il aurait pu pousser à la roue dans le dessein de perdre Méléagan et Blancandin.
Mon oncle, en Grèce, est un prud'homme, protesta Lanval, en arborant une expression vaguement outrée. Il peut se montrer dur, mais je ne l'ai jamais vu faire preuve de perfidie.
Et même si c'était le cas, argua Diachekrimen. Le comte de Brockmel ne représente plus grand danger dès lors que messeigneurs Méléagan et Blancandin sont compromis. Tôt ou tard, il renforcera votre parti, Altesse, pour s'assurer de la perte de vos fils, et cela qu'il ait participé au complot ou non.
Ganelon en convint, mais cela n'eut pas spécialement l'air de le réjouir. Comme s'il se trouvait à court d'idées, il finit par s'arrêter face à un seigneur qui n'avait dit mot depuis notre arrivée.
« Et toi, Esquivar, ce coup en traître ne t'inspire rien ?»
À la différence de Lanval, le gaillard n'eut pas l'air étonné d'être apostrophé. C'était un type entre deux âges, le crin poivre et sel, qui possédait une distinction naturelle. Quoique vêtu simplement pour courir le gibier, sa magnifique dague de chasse et les bagues qui ornaient sa main suggéraient son haut rang. Plus révélateur encore, il faisait partie des quelques dignitaires qui, à l'instar du prince ducal ou du connétable, avaient osé s'asseoir en présence de leur suzerain. Pourtant, il avait conservé jusque-là une prudente réserve.
« Tout cela me contrarie au plus haut point, » répondit-il sur un ton coupant.
« À la bonne heure, » railla le duc. « Au moins, il y a quelqu'un qui partage mon sentiment. »«
Je comprends que vous me soupçonniez. Il pourrait difficilement en être autrement. Mais je peux vous jurer sur l'honneur que je n'ai pas trempé dans ce complot. »«
Vraiment, ni Méléagan ni Blancandin n'ont cherché à te gagner à leur cause. »«
Voilà des années que je n'ai plus de lien avec Blancandin. »« Quant à Méléagan, rappelez-vous sa colère quand j'ai confirmé la sentence de la cour ducale contre ma sœur. » De ce jour, j'ai perdu l'affection de mes neveux en même temps que vous renonciez à l'amour de vos fils. »
Ganelon haussa les épaules, comme s'il méprisait pareil lieu commun.
« Et Dilsin, » insista-t-il, « il adore sa tante. Il s'entend comme larron en foire avec ses cousins. N'a-t-il pas changé ces derniers temps? Ne crois-tu pas qu'il s'est ligué avec eux ?»«
Vous avez raison, » Dilsin vénère sa tante. « A-t-il changé ?»
« Bien sûr.
En fait, il me bat froid depuis le procès. Mais il y a une chose que j'ai inculquée à mon fils, et qui assure qu'il nous restera loyal, même à contre-cœur. Le sens de l'honneur. Cette triste affaire a suffisamment sali le nom des Maginois. Participer à une entreprise aussi folle ne le souillerait que davantage. »
Le duc considéra son vis-à-vis quelques instants d'un œil scrutateur.
« Je veux bien te croire, » reprit-il posément.
« Mais est-ce vrai pour tous les tiens? Odehard se montrait prodigue avec sa famille. Elle s'est attachée bien des fidélités. Peux-tu me jurer que personne dans ta parenté n'a pris fait et cause pour elle ?»
Esquivar ébaucha un sourire fin.
« Je ne peux le jurer, » répondit-il. « Mes propres neveux sont ses champions. »
Et avant qu'on puisse l'accuser de jouer sur les mots, il ajouta « Je ne puis le jurer non plus pour le reste de la famille. La position que m'a dictée ma conscience sur l'inconduite de ma sœur m'a brouillé avec une partie des miens. Je peux seulement vous faire cette promesse. Si je découvre que certains de mes parents ont manqué à leur devoir, je me chargerai personnellement de les remettre dans le droit chemin. Vous avez ma parole. Indéfectible esquivar, railla doucement Ganelon. Toujours aussi irréprochable, toujours respectueux de la légitimité. Puis, sur un ton plus vif, il s'adressa à tout le conseil en ouvrant les bras avec emportement. En somme, si je vous suis bien, personne n'a vraiment conspiré dans le duché, hormis Anguzel qui a machiné le coup tout seul dans son coin, puis a entraîné mes imbéciles de fils.
C'est sans doute la version que nous retiendrons en dernier ressort, observa le chancelier. En tout cas, c'est la plus présentable.
Bien sûr, convint le suzerain. Il faudra ficeler un joli compte si nous voulons clore ce problème au plus vite sans diviser la noblesse. Mais il serait inconsidéré de nous aveugler. Kimark est un vieux renard. Il ne se sera pas lancé dans cette aventure sans de solides appuis.
Dans ce genre de ligue, il y a souvent des convaincus et des tièdes, remarqua le connétable. Si nous agissons avec promptitude, cela pourrait suffire à refroidir une partie des conjurés.
« Je suis d'accord, » grommela le gros Domnal.
« Qu'est-ce qu'on en a à faire de toutes les momeries du tournoi? Frappons tout de suite mes gentils frères. Sans eux, de toute manière, la conjuration est à l'eau.
C'est ce qu'il fallait faire quand Blancandin était à ta portée, » rétorqua aigrement le duc. « Maintenant qu'il a rejoint Méléagant, tout devient plus compliqué. »
« Pas tant que cela !» répondit son bâtard sans se démonter. « Sitôt que mes ourromans auront touché leur or, ils accepteront de se battre. Je peux partir pour Vert dès qu'ils seront payés. »
Ces paroles soulevèrent de vives réactions dans le conseil. Manifestement, le plan du gros Domnal ne soulevait pas l'enthousiasme.
« Quelques centaines de soudoyers ne peuvent pas prendre Vert !» éluda Ganelon avec un rien de condescendance.
Même toute l'armée du Cal aurait du mal à s'emparer du château, renchérit le connétable. Si elle est bien tenue, la place peut soutenir un siège des mois durant. Et soyons assurés que Méléagant a déjà pourvu à sa défense. Ses objections n'avaient pas l'air de gêner Domnal. Avec un sourire un peu tort qui dévoilait une dentition ébréchée, il poursuivit sur son idée.
En fait, on s'en fout un peu de prendre le château, non ? Le but, c'est d'enfermer les deux blancs-becs dans leurs murs et de les empêcher de rejoindre Kimark. Il aura l'air fin, le comte, avec ses lys, ses trompettes et ses héros d'armes, quand ses complices l'auront lâché. Et puis, si on ne conquiert pas Vert, on aura les coups des franches pour ratisser le pays. On fauche le bétail et les récoltes, on rase les vergers, on brûle les greniers et les moulins. On l'aura quand même mouché, le fier Méléagant, s'il n'a plus les moyens d'entretenir sa troupe dès l'automne prochain. Et s'apprêtera à réfléchir à tous ceux qui voudraient le suivre. Son père, toutefois, ne parut guère séduit par ce plan de bataille.
« Trop long, trop incertain !» écarta-t-il. « Ce serait un coup à réaliser les craintes de Rhinfroid et à voir les forces d'Anguzel assaillir Ouchain et Trèfle. Il faudrait donc mettre vos fiefs en défense et la vallée de la Claye deviendrait hostile à nos troupes. L'offensive contre Louromagne ne serait plus envisageable. »
Le bâtard, qui finalement était moins bête qu'il n'en avait l'air, ne remit pas en question ses critiques.
« C'est vrai, »
admet-il en faisant preuve d'une franchise qui contrastait avec la circonspection de certains conseillers. « Ça ferait capoter la guerre contre les clans. On n'a pas beaucoup de temps pour ça. Il faut éreinter les ouromans dès le début du printemps ou passer notre tour. Si on tarde, ils sauront nous recevoir. »
« Ne sont-ils pas affaiblis ?»
intervint Esquivar de Maginois. Jamais ne nous sont revenus des terres barbares autant d'échos de guerre et de tuerie.
La bataille du Pain Tordu a été un bain de sang sans vainqueur ni vaincu, répondit Domnal. Les Oer et les Artclyde continuent à s'affronter. Leurs chefs, Brancovan et Ferbassac, se haïssent à mort, mais rien ne dit qu'ils ne s'uniront pas contre nous dès que nous les attaquerons. Si nous leur laissons le temps de refaire leur bande, ils pourraient nous opposer une résistance féroce. Ce sont des sangliers blessés. Avant de crever, ils auront encore assez de hargne pour nous dévider les tripes.
Ces mots furent accueillis par des visages graves. Manifestement, l'entourage du duc ne sous-estimait pas la valeur des clans ouromans, et tous ces grands seigneurs prenaient pour argent comptant l'avertissement du bâtard. J'avais moi-même un sale souvenir de ce Brandcovan, qui avait fini par s'emparer de Kelsbruck. Je revoyais encore les brutes de son allié Bratislav massacrer une enseigne de la phalange au pied du rempart et promener en riant la tête du centenier Celarina. Ce n'était pas pour rien que Brommel avait demandé le soutien de la République en préparant sa guerre contre ces sauvages. Le duc et ses conseillers avaient toutes les raisons de penser que la discorde dans leur rang scellerait l'échec de l'offensive. « Il nous faut un expédient pour crever rapidement l'abcès », résuma Ganelon. « La guerre contre Anguzel et Méphis, même victorieuse, nous ferait perdre trop de temps et de moyens. Quelles sont nos autres options ?»«
La négociation », répondit le chancelier. « Ouvrons des pourparlers séparés avec les conjurés. Offrons à chacun quelque chose qui le poussera à se retirer de la Ligue. Sitôt que l'un d'eux fera défection, la sédition s'effondrera comme un château de cartes.
Anguzel réclamera la fin de son hommage, grogna le duc. Hors de question que je lui restitue sa souveraineté.
La discussion pourrait être plus ouverte avec Méléagant et Blancandin, fit valoir Esquivard. La clémence pour vos fils, accompagnée d'un geste envers Odéarde, comme l'assouplissement de son régime de détention, les ramènera peut-être à la raison.
Et naturellement, tu te chargeras de ces tractations,
grimaça Ganelon d'un air sarcastique. Moi ou quelqu'un d'autre, peu importe. Mais si vous voulez régler rapidement ce problème, il faudra bien faire des concessions.
Comme permettre à Odéarde de se retirer à Vers, ou pourquoi pas sur tes propres terres. Seigneur de Maginois, vous me prenez vraiment pour un perdreau de l'année.
Le duc secoua la tête avec une expression pleine de défiance.
Tu connais ta sœur aussi bien que moi, Esquivard, poursuivit-il. Vois le désordre qu'elle est capable de provoquer en étant tenue au secret. Si jamais j'entr'ouvre la porte de la cage, l'oiseau ne se contentera pas de s'envoler. Il apprivoisera mes propres faucons et reviendra me tondre la laine sur le dos.
Son visage s'assombrit et son œil prit une fixité inquiétante, comme si quelque idée redoutable venait de lui traverser l'esprit.
Et puis, il ne me plaît pas d'ouvrir aussi vite des négociations avec les fils rebelles,
ajouta-t-il un ton plus bas, mais avec une intensité qui alourdit le malaise dans la petite assemblée.
Traité avant même d'avoir croisé le fer.
Méléagant me ressemble. Il aurait la même réaction que moi dans ces circonstances. Il prendrait cela pour un aveu de faiblesse, ce qui renforcerait sa détermination au lieu de l'assouplir.
Non, pas de pourparler. Il faut trouver autre chose.
Ni la voie des armes, ni celle de la diplomatie,
releva le connétable. Cela devient compliqué.
Je fis de mon mieux pour demeurer aussi silencieux et insignifiant que possible. Le raisonnement que suivait Ganelon de Brommel dérivait de plus en plus hors du champ des actions traditionnelles et se rapprochait insensiblement des options dans mon genre. Si Magnence Diatchekrimen savait pertinemment qui j'étais, il y avait fort à parier que le duc était également au parfum. Or, je n'avais qu'assez modérément envie d'être mêlé à cette querelle de famille. Non que cela m'aurait spécialement gêné de refroidir un rejeton ducal, je n'en étais plus à un trophée près. Mais, vu les circonstances, le meurtre aurait été signé. Ça aurait été un jeu d'enfant de remonter jusqu'au commanditaire et son exécutant. La guilde n'aurait pas forcément apprécié une telle publicité. Et pour ma part, je n'avais pas spécialement envie de devenir la cible d'une partie de la gentilhommerie bromaloise.
L'élégant Esquivard de Maginois se pencha soudain en avant sur son siège, l'expression concentrée, comme s'il venait d'entrevoir quelque chose.
Il existe peut-être un autre moyen, énonça-t-il d'un air inspiré.
Dis toujours, gronda le duc sans dissimuler la méfiance que lui inspirait celui qui avait été son beau-frère.
Méléagant et Blancandin ont commis une faute. Ils se sont attachés le service du chevalier de Vaumacel.
Or, celui-ci, par son refus de comparaître à votre cour de justice, est devenu doublement félon, aussi bien à votre autorité qu'à la loyauté qu'il aurait dû manifester à ma sœur. C'est le maillon faible de la conjuration.
un chevalier sans parole qui a bafoué le siège ducal. À travers lui, on peut atteindre les séditieux sans perdre l'estime de la noblesse.
Ganelon interrompit ses va-et-vient et parut accorder plus d'intérêt à cette suggestion qu'aux précédentes.
Faumacel ne sera ni le premier ni le dernier à me défier de la sorte, objecta-t-il néanmoins. Cela me donne certes un motif légitime pour le traduire en justice, mais sera-t-il suffisant pour discréditer ses comparses?
Sa dérobade au procès a fait de lui un personnage aussi honni parmi les partisans de ma sœur que parmi vos loyaux sujets. Nul ne vous blâmera de le poursuivre. Et si le couard est condamné, son déshonneur éclaboussera ses complices. Par ce moyen, vous pouvez décourager les ralliements à la sédition.
Le suzerain hocha pensivement la tête. Il ne paraissait pas complètement convaincu, mais cet artifice judiciaire lui donnait visiblement à penser. Il finit par se tourner vers le seigneur du trèfle.
Quand il s'est arrêté chez toi, Faumacel a-t-il invoqué un prétexte pour justifier son absence au procès?
En effet, répondit platement le malheureux vassal.
Eh bien, que t'a-t-il dit?
Qu'il était tenu par son serment d'obéissance au chevalier du sacre, et que le grand maître Venance a refusé de le libérer de son service.
Anaro de Traval afficha une moue pleine de mépris.
L'excuse est facile, commenta-t-il.
Mais elle pourrait devenir recevable, pour peu qu'un dignitaire de l'ordre la confirme, fit observer le chancelier.
De toute façon, Odéhard ayant été déposé pour l'adultère commis avec ce triste sire, Faumacel est coupable de félonie et de lèse-majesté,
répliqua le connétable.
Qu'importe qu'il se réfugie derrière le manteau de l'ordre pour couvrir son refus de comparaître devant la cour de justice. Sa faute est de notoriété publique. Elle suffira à fonder sa condamnation.
Ganelon, toutefois, ne l'entendait pas de cette oreille.
Tu as raison, Anaro. Sa compromission avec Odéhard ayant été établie, cela suffira à confondre Faumacel. Mais revenir sur mes infortunes conjugales serait de très mauvaise politique. Le peuple a assez cancané sur les bois du cerf bromalois. N'encourageons pas des chansons qui saperont mon pouvoir alors que j'ai besoin de l'affermir. N'y a-t-il pas d'autres motifs pour lesquels on pourrait poursuivre ce petit chevalier? Si mes souvenirs sont bons, il y avait une histoire de crime de sang.
Il y en avait même deux, confirma le chancelier.
Le sire de Faumacel a été accusé d'avoir tué en combat singulier un de vos barons, Iwel de Combenoir, et un vassal du comte de Bellestance, Lorcan de Prangeray.
Bien sûr, cela me revient à présent, reprit le duc. Voici des attentats plus présentables. Il suffit de les monter en épingle, d'en faire les principaux chefs d'accusation et d'y ajouter le crime de lèse-majesté au passage. En couvrant d'opprobre cet aventurier, nous ternirons la cause de mes fils et les priverons du soutien de la noblesse.
Ce fut au tour du chancelier de se montrer dubitatif.
Le stratagème est habile, convint-il en saluant Esquivard d'un léger signe de tête.
Joignant le bout des doigts, il ajouta cependant
« Habile, mais pas exempt de difficultés. Tout d'abord, le chevalier de Faumacel n'est pas en notre pouvoir. Cela ne nous empêche nullement de nuire à sa réputation, mais l'échange d'accusations est une pratique courante entre parties hostiles. Elle n'a pas le poids d'un jugement solennel. Toutefois, ce serait le procès, s'il venait à se tenir, qui recèlerait la chausse-trappe la plus dangereuse. »
Quoi ? Intervint brusquement le duc.
On m'accuserait encore d'être juge et parti ? J'agirais comme je l'ai fait pour Odéhard. Je déléguerais mon pouvoir à des représentants de la noblesse et le tour sera joué.
Diachekrimen approuva avec un rien d'obséquiosité, mais n'en poursuivit pas moins.
Le problème vient du contexte dans lequel Faumacel a perpétré ses crimes.
Si ma mémoire est bonne, ces meurtres ont été commis dans le cadre de la guerre privée entre les baronnies de Brigor et de Combenoir. Ils impliquaient Rambourg de Brigor, qui a même été témoin de la mort de son cousin. Or, lors du procès de la ci-devant duchesse, la baronne de Brégor a également été le principal témoin qui a convaincu la cour de son adultère avec Edan de Vaumacel.
« Au fait, Magnance !» gronda le suzerain. « Qu'essaies-tu d'insinuer ?»
Que le procès de Vaumacel serait susceptible de mettre en lumière le grave contentieux qu'il oppose à Dame Erambourg. Les partisans de Dame Odéhard pourraient saisir la balle au bon pour accuser la baronne de Brégor d'avoir produit un faux témoignage dans le seul dessein de nuire à son ennemi. Le duc étouffa un mouvement d'humeur. L'embûche que soulevait son ministérial le contrariait visiblement. Mais il se montrait trop lucide pour balayer l'argument d'un revers de main.
« Cet écueil est facile à contourner, » intervint le connétable. « Il suffit d'abréger les débats. Proposons un combat judiciaire. Je suis sûr que Vaumacel l'acceptera. Sur le pré, je me fais fort de l'emporter. »
« C'est un rude adversaire, » remarqua Esquivard de Maginois.
« Je l'ai déjà vaincu, » rétorqua le baron de Traval. « Je le vaincrai de nouveau. »
Mais à Godemas, il combattait au pis, rappela prudemment le chancelier. Le connétable se drapa dans une dignité arrogante.
« Cela, c'est ce qu'il a raconté pour courtiser Odéhard et me voler le prestige de la victoire, »
lâcha-t-il avec sécheresse.
« Quand j'ai croisé le fer avec lui, je vous assure qu'il ne retenait pas ses coups. Mes armes sont juste supérieures aux siennes. Je suis prêt à le prouver en champ clos. »
Ganelon se remit à déambuler, les mains croisées dans le dos.
« Je connais la force de ton bras et je veux bien te croire, Anaro, » dit-il. « Mais si tu terrasses Vaumacel une deuxième fois, alors, en dissipant ses mensonges, tu mets à mal l'idée qu'il s'est laissé dominer à Godemas pour les beaux yeux de la duchesse. « Cela ne contredit en rien l'infidélité, » objecta Traval. « Vaumacel a maquillé sa défaite en geste de dévotion et Odéhard, dupé par un beau parleur, lui est tombé dans les bras. »
Le duc fit la moue. Odéhard, berné comme une oie blanche. Voilà un conte difficile à avaler pour toute la noblesse. Il leva néanmoins une main conciliante.
Vous avez raison sur un point. D'une façon ou d'une autre, il faudra arrêter Vaumacel et le soumettre à la justice. S'il est de retour, je ne puis faire autrement, sauf à perdre la face. Il pourrait même nous fournir le bouc émissaire idéal pour épargner mes fils une fois que nous les aurons remis au pas. Mais nous aurons besoin de doigté dans l'instruction de ce procès. La moindre maladresse nous ôterait tout bénéfice. En plus, Magnance a raison. Dans ce genre de querelle, on a l'habitude d'échanger des accusations de félonie. C'est utile pour ternir la réputation de l'ennemi, mais ce n'est pas suffisant. Nous flétrirons Vaumacel, mais tant que nous ne le tiendrons pas, cela n'empêchera pas les séditieux de se dresser contre nous. »
Il fourragea dans sa barbe roussâtre avec nervosité.
« Il nous faut une combinaison plus contraignante, » grommela-t-il. « Une manœuvre moins prévisible et plus sûre. »
Et comme il semblait à court d'idées, il se tourna brusquement vers nous.
« Atchoudéalia, il n'est pas rare que vous traversiez des dissensions internes, » lança-t-il. « Comment régleriez-vous la question ?»«
Le mauvais pressentiment qui me chatouillait l'échine depuis un moment prit carrément ses aises dans mon estomac. Cette histoire-là sentait de plus en plus mauvais, aussi fort que les rues de Carwell. Je ne voyais que trop où le duc voulait en venir et dans quelle fange cela m'entraînerait. » Cesarino, cependant, ne paraissait pas inquiet le moins du monde. Il parut même accueillir la perche douteuse tendue par Ganelon comme le bon élève qui a anticipé la question et préparé sa réponse. « C'est vrai, » dit-il, « la République n'est pas épargnée par les différends. Fort heureusement, il ne débouche pas toujours sur des événements aussi tragiques que la récente guerre civile. La plupart du temps, nous parvenons à une solution pacifique.
Par quels moyens ?
Oh ! À peu de choses près, grâce à un expédient suggéré par le seigneur chancelier. Nous achetons nos ennemis. » Il avait lâché ces mots avec un sourire désarmant d'affabilité. Je me demandais brièvement si le patrice qui venait de livrer 400 000 florins d'or au duc de Bromel se montrait délibérément insolent, et je conclus aussitôt que oui.
Quelle meilleure démonstration de l'efficacité de la stratégie républicaine que ce cynisme clairement affiché. Ganelon et plusieurs de ses dignitaires eurent un moment de flottement, probablement parce qu'ils se posaient la même question que moi. Je crus voir briller un sursaut de colère dans la prunelle ducale, mais cet embrasement se résorba en un sourire torve.
Nous jouons de malchance, car Méléagant est déjà marié, répliqua le suzerain sur un ton doucereux.
Est-ce un obstacle insurmontable ? Badina dangereusement Cesarino.
Peut-être pas. Si vous nous proposez un riche parti parmi vos sœurs ou vos cousines,
je crains hélas que peu de filles de bonne famille arrivent à la cheville de son Altesse Clarissima. Mais je pense que mon oncle, s'il était à votre place, divertirait une partie de la dot pour racheter au plus vite quelques fidélités.
Ganelon afficha une certaine déception.
Voici un artifice bien bourgeois, railla-t-il. Il ne fonctionnera pas avec la noblesse bromaloise, et encore moins avec mes fils. Oh, bien sûr, nous sommes dépensiers et nous empruntons à vos maisons, mais dans le fond, seigneur Razikari, cela révèle le mépris dans lequel nous tenons l'argent. Nous préférons être endettés plutôt qu'obligés.
Cesarino accepta cette rebuffade de bonne grâce.
Justement, répondit-il. Je m'étais dit que solliciter de nouveaux fonds auprès de son Excellence Ducatore ne vous aurait pas coûté grand-chose, hormis de l'or, pour venir à bout de ce problème.
Mais je n'avais pas envisagé que les factieux seraient aussi indifférents que vous à ces facilités.
Eh bien, si la vénalité ne figure point au nombre des qualités de vos félons, j'incline à croire que mon oncle vous recommanderait d'autres voies.
Je fis de mon mieux pour rester impassible, mais je me préparais au pire. Le caractère avenant et les bonnes manières du patrice participaient d'un art de vivre aristocratique qui, depuis sa plus tendre enfance, l'avait baigné dans les intrigues de palais. Il connaissait par le menu tous les usages de sa condition. Si les négociations ou la corruption échouaient, il était tout naturel pour les élites tchoudaliennes de faire appel au service de la guilde, en toute discrétion naturellement, afin de conserver un vernis d'honorabilité, mais sans aucun scrupule. La duplicité faisait partie de l'éthique patricienne, et c'est d'ailleurs ce qui faisait la prospérité des chuchoteurs. Il me parut évident que sous le couvert de subtiles circonlocutions, Cesarino allait proposer de recourir à mes petits talents. Or, je me trompais sur le compte du jeune ambassadeur. Formé à l'école du Podestat, il adopta un angle plus fuyant et plus théorique. Étant arrivé en cours de discussion, je n'ai pas forcément connaissance du détail de votre affaire, eut-il soin de préciser. Mais j'ai cru saisir les grandes lignes du problème. Vos mutins sont moins puissants que vous, mais ils vous tordent le bras en utilisant deux leviers. La coutume et le peu de temps dont vous disposez pour lancer votre campagne. Ils exploitent le code chevaleresque pour neutraliser votre supériorité militaire et pour vous retarder. C'est donc sur ce terrain que vous devez prendre le dessus afin de retrouver votre marge d'action. En d'autres termes, retournez contre eux les usages et les valeurs dont ils se font un bouclier. Ce propos laissa dubitatif ou perplexe un certain nombre de grands personnages du conseil, mais le duc l'accueillit avec moins de condescendance que l'argument précédent. Le chancelier, quant à lui, manifesta de l'intérêt.
« L'idée n'est pas pour me déplaire, » admit Ganelon. « Mais concrètement, comment la mettre en œuvre ?»«
Je ne connais pas assez le duché, sa noblesse et ses mœurs, pour vous soumettre un plan. » répondit prudemment le patrice.
Mais je devine à peu près ce que mon oncle vous aurait dit. Vos fils jouent contre vous la lettre du code chevaleresque, plutôt que son esprit. Prenez-les à leur propre jeu.
Le connétable, qui avait certes des raisons personnelles d'en vouloir à la famille Ducatore, haussa un sourcil dédaigneux.
Tout cela est trop subtil pour moi, lâcha-t-il. Ergoter sur le point d'honneur ne nous fera pas gagner de temps.
Cependant,
le chancelier Diatchekrimen montrait un tout autre visage. Un air de connivence éclairait sa figure matoise.
Si j'ai bien saisi la suggestion du seigneur Razikari, intervint-il, il s'agit moins de contester que de contourner.
Faire mine d'accepter les règles de l'adversaire pour le surprendre en jouant au plus fin.
Vous m'avez parfaitement compris, seigneur Magnans, confirma Cesarino.
Il s'agirait de tromper l'ennemi en se soumettant à ses conditions, fustigea le baron de Traval. Voici sans doute le plan d'action le plus extravagant que j'ai pu entendre.
Ganelon, de son côté, avait l'air de réfléchir sur la question, sans pencher pour l'un de ses conseillers.
En somme, Razikari, à ma place, vous accepteriez le tournoi ?
Demanda-t-il.
Je feindrais de l'accepter, pour dénouer les crispations et retourner la situation en ma faveur.
Le duc hocha pensivement la tête.
« Ouais, ouais, » convint-il. « Cela reste un moindre mal. Et comme vous le dites, cela m'offrira l'opportunité de reprendre l'avantage. D'abord, j'afficherai une magnanimité qui m'attachera les sympathies de la noblesse. Ensuite, relever le gant me permet d'entrer sur les terres de Kimark sans coup férir à la tête de mon armée. » Et puis mes fils ne seront plus retranchés derrière leurs murailles, mais à ma portée, comme ce maudit Vaumacel et ce fourbe d'Anguzel. Je me montrerai tempérant et large pour montrer que je ne cherche pas le conflit, mais je les menacerai de plus près qu'en assiégeant Vers.
Le tournoi risque de coûter cher en hommes et en chevaux, fit valoir le connétable, sans parler du coup porté à ton pouvoir si tes fils l'emportaient.
« Bien sûr, Anaro, et je manifesterai publiquement mes réticences. Mais imagine que nous vainquions sur la lys. Nous prendrions les rebelles à leur propre piège. Au nom de la coutume qu'ils ont invoquée, ils seraient bien forcés de s'incliner et de nous rallier. Et nous n'aurions perdu que peu de temps.
Pareil combat n'est pas pour me déplaire, rétorqua Traval. Mais il est fort hasardeux.
Eh bien... « À nous de bannir toute action du hasard. Que nous nous prêtions au jeu ne signifie pas que nous le suivrons aveuglément.
Envisages-tu de truquer la partie ?
La vraie partie, c'est la guerre contre l'Ouromagne. Au nom de ce motif supérieur, n'ayons pas de scrupules à négliger des conventions que mes propres fils ont détournées de façon séditieuse. »
« Et comment procéderons-nous ?
En rendant aux factieux la monnaie de leurs pièces. Pratiquons le débauchage dans leur rang.
Pourquoi nous gênerions-nous? N'est-ce pas ce qu'ils cherchent à faire? Usons de la persuasion, de l'intimidation, des liens familiaux, des faiblesses amoureuses, que sais-je encore? On trouvera bien le moyen d'amoindrir le conroi des fils rebelles. Ensuite, nous les vaincrons sur le pré et contraints par leurs propres règles. Il faudra bien qu'ils fassent amende honorable. »
Anaro de Traval prit le temps de méditer cette ligne de conduite. « Considéré sous cet angle, concéda-t-il, l'affaire devient plus simple à conclure. Le procédé manque de franchise, mais il offre d'assez bonnes garanties de succès.
C'est même une sage politique, renchérit le chancelier. Cette manœuvre sera plus économe en hommes et en moyens qu'un conflit ouvert.
Et, au final, l'humiliation d'avoir été battu dans la lys formera sans doute un châtiment suffisant pour mes neveux, plaida Esquivar de Maginois. Afin de restaurer pleinement l'autorité ducale, il suffira de faire un exemple avec le chevalier de Vaumacel.
Le suzerain opinait légèrement du chef, de plus en plus séduit par cette tactique oblique.
Ouais, cette ligne est probablement le meilleur moyen de sortir de l'ornière, reprit-il. Mais nous ne sommes pas encore hors d'embarras. Il va falloir identifier les renégats, cerner leurs points faibles, les approcher et probablement jouer sur plusieurs tableaux. La circonspection sera de mise. Parmi les barons qui répondent à la levée du banc, certains sont peut-être des traîtres.
Justement, comment allons-nous présenter les faits à la cour?
Sans qui le connétable? Ce défi va faire du bruit. et pourra fragiliser des loyautés. »
Le duc acquiesça d'un air absorbé.
« Divertissons les esprits, » proposa Diachekrimène. « Organisons une grande fête pour célébrer les retrouvailles de Son Altesse Clarissima avec son cousin le seigneur Razikari, symbole de l'alliance entre le duché et la République de Tchoudalia. »
« C'est une bonne idée, » approuva Ganelon. « Ne cherchons pas à dissimuler l'affront, mais étouffons-le dans le cours des réjouissances. Commençons dès ce soir. Je manifesterai mon mécontentement, mais j'honorerai aussi nos invités tchoudaliens, et je me réjouirai du trésor qu'ils nous ont apporté. Et puis, étourdissons la cour. Je veux un festin, des jongleurs, des ménestrels, des animaux savants. » Que l'on n'ait pas le loisir de parler de choses sérieuses, mais qu'on se délecte de mets fins, de bouffonneries, de musique et de belles histoires. Tenez, à la haute table, je veux que l'on raconte le conte du bel églantier qui se déroule à Carwell.